Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. 1 euro égale 1 dollar. Est-ce que c'est grave ? Ce sera la première question de cette émission. Parce que la parité euro-dollar est un argument probablement qui va inciter la BCE effectivement à durcir sa politique monétaire. L'Espagne décide après la Grande-Bretagne à son tour de taxer de manière exceptionnelle les banques mais aussi les groupes énergétiques. Alors est-ce que nous on le fait ou pas ? Philippe Martin du Conseil d'analyse économique trouverait ça acceptable dans les colonnes des Échos aujourd'hui. Sur le pouvoir d'achat, j'aimerais qu'on dise un mot sur ce qui ressortait quand même des prises d'opposition d'Elisabeth Borne aux rencontres économiques d'Aix, où l'idée qu'on fait payer l'énergie en fonction des revenus. C'est quand même un concept tout à fait particulier. Est-ce que c'est jouable ? Est-ce que c'est possible ? On en parlera. Puis cette interview, un peu confession de Jamie Dimon, le patron de JP Morgan dans les Échos, il est inquiet, Jamie Dimon. Il dit qu'on peut passer des nuages à l'ouragan, qu'un atterrissage en douceur devient de moins en moins probable. Il est aussi très élogieux à l'endroit d'Emmanuel Macron, qu'il considère comme un président très compétent, estimant qu'un travail d'attractivité extraordinaire a été accompli depuis son élection en 2017 pour la France. Et puis cette question que je pose au moment où l'actuelle convention UNEDIC est repoussée, enfin est allongée d'un an. Eh bien, est-ce que l'autre réforme, à côté de celle des retraites, la réforme qui permet de faire des économies de dépenses publiques, la réforme qui permet d'augmenter le taux d'emploi, ça n'est pas la réforme de l'assurance chômage, dont pour l'instant, c'est vrai, personne ne parle. Augustin Landier, bonjour.
Bonjour.
Professeur à HEC, vous avez coécrit le prix de nos valeurs quand nos idéaux se heurtent à nos désirs matériels chez Flammarion. Le prix de la librairie de l'Écho 2022, c'est ça, d'Emmanuel
c'est ça,
Le Chip, avec Guillaume Dard et Mon Pensier Finance. Mathieu Plane, bonjour.
Bonjour.
Directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Et Jean-Charles Simon, bonjour.
Bonjour.
Président de Station, société d'études économiques, et président d'ETF Patrimoine, solution d'allocation d'actifs. Alors, on commence avec vous, Augustin. Vous êtes cité dans l'histoire des Uber Files, ouais, au sujet d'une étude que vous aviez menée avec David Tesmar, de la même manière que pour des raisons absolument similaires, Nicolas Bouzou, que vous connaissez, a également été cité. Donc je voudrais juste vous donner un droit de réponse et vous entendre sur la façon dont les choses se passent.
Ouais, je crois qu'il faut le faire vraiment rapidement et pas en faire tout un pataquès. Il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de scoop dans ces révélations. Donc en trois mots, sur la transparence, l'étude depuis le début, elle est présentée comme une étude qui est commandée par Uber. Elle n'est pas publiée dans une revue scientifique, elle a été toujours affichée comme un travail de conseil. C'est écrit dans l'étude elle-même, qui est publique depuis le début, elle est sur nos sites web. Ça a été reporté dans la presse, vous trouverez des articles qui en font état et qui disent d'ailleurs que c'est une des limites de l'étude, c'est qu'elle est commandée par Uber. Donc voilà, transparence totale, on n'a jamais rien caché là-dessus ou fait comme si ce n'était pas une commande de Uber. Ensuite, deuxième point, c'est sur le contenu. Cette étude, elle a apporté des faits dans le débat public. Ces faits, on a eu accès à des données individuelles sur les recettes des chauffeurs, donc l'argent que leur transférait Uber. On ne connaît pas la structure de coûts, les taxes qu'ils payent. La seule chose qu'on voit, c'est combien ils gagnent et à quelle heure de la journée, etc. Vraiment le micro-détail des données Uber. On a eu un sondage qu'on a pu aider à construire sur les chauffeurs. Et enfin, on a les données INSEE qui permettent de savoir d'où ils viennent, est-ce que c'est des zones plutôt défavorisées ou pas. Et ce qui en ressort, c'est ces chauffeurs, d'abord, ils travaillent à plein temps, ça on ne le savait pas à l'époque, c'est leur activité principale, ce n'est pas une activité d'appoint. Deux, ils viennent plutôt des zones défavorisées, ils sont jeunes, exposés au chômage. Et puis, l'autre aspect qu'on trouvait intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'expérimentations, des gens qui essayent pendant quelques mois. Certains sont plus productifs que d'autres, les moins productifs quittent l'activité. Voilà. Donc c'est ça que fait l'étude, c'est l'effet qu'elle apporte, point barre. Et puis ensuite, il y a le dernier aspect qui est la cohérence intellectuelle et même morale de faire ça. Et là, on assume à 100%, c'est-à-dire qu'on pense que c'est vraiment notre rôle aussi de contribuer au débat public de cette manière. Donc c'est du consulting, d'abord on a le droit de le faire, mais par ailleurs, comme individu, comme économiste qui participe au débat public, on considère que il faut se souvenir de ce que c'était le monde des taxis en 2014. Ça avait besoin d'être secoué. Il y avait un problème de rareté de l'offre, il y avait une réticence à accepter le changement technologique. technologique, et ben voilà, ça a contribué aussi à ça. Et puis enfin, il y a le problème de l'entrée sur le marché de l'emploi des jeunes, des quartiers défavorisés. Et là aussi, c'était une manière de montrer en fait qu'il y avait un enjeu qui se jouait ici. Donc voilà, on assume complètement, rien à cacher là-dessus et rien à regretter.
Et c'est exactement à peu près la teneur de ce que Nicolas Bouzou a pu déclarer sur le fait qu'il a toujours publié le nom du financeur de l'étude qu'il avait menée avec son cabinet Asterès, qu'il y a un cahier des charges et qu'il y a une charte éthique qui avait été signée par Uber garantissant l'indépendance du travail qui allait être mené par Asterès. Voilà. Et effectivement, le fait que, comme vous, Nicolas Bouzou ne s'est jamais cassé, qu'il était plutôt un ennemi des rentes et plutôt un soutien de la concurrence comme étant des éléments... d'épanouissement économique. Quelqu'un veut dire ah oui, Jean-Charles Simon, et puis après oui, on prend l'actu.
Moi, mon métier, un de mes métiers, c'est de faire des études économiques pour des entreprises et des organisations. Quand ces études sont à usage public, on cite toujours qui paye, qui a commandé l'étude. Et il se trouve, je l'ai dit sur Twitter à propos d'Augustin et Nicolas, moi, au même moment où ils faisaient ça, je sortais des études commandées par les syndicats de taxi et notamment G7.
Ah, bien sûr.
Et j'avais, moi, d'ailleurs, été sollicité par eux. Pourquoi ? Parce que j'avais pris avant des positions en disant, intellectuellement, j'accepte totalement ce que vient de dire Augustin, mais... je trouve qu'il y a des limites au modèle Uber et des fragilités dans ce modèle. Et donc, en fait, après, chacun va... Et moi, j'ai été totalement libre. Jamais G7 ne m'a fait changer une virgule de ce que j'écrivais, de mes travaux. Moi aussi, j'ai eu accès à des données qui étaient des données des syndicats de taxi. J'ai eu accès, évidemment, aux données publiques type données INSEE. Et je montrais, par exemple, que choses qui se sont révélées quelques années plus tard comme un vrai sujet, que les revenus, par exemple, des chauffeurs étaient assez faibles. Donc, on arrivait à des sujets où il y avait de la précarité, du turnover important. Et puis, par ailleurs, qu'il y avait peut-être des besoins de régulation. On n'a jamais, d'ailleurs, demandé une quelconque limitation de l'activité d'Uber, mais qu'il y avait des régulations et que, notamment, le fait qu'il y ait deux secteurs qui coexistent, l'un qui soit totalement libre dans ses tarifs et ses méthodes, et l'autre, mais qui, du coup, n'est pas d'avantage particulier sur la chaussée, et un autre qui soit totalement régulé, mais qui, du coup, ait quelques avantages, qui sont réglés notamment en prix, pour donner des signaux à des gens qui ont besoin d'être sûrs de quelque chose, d'un tarif régulé, par exemple, et ben que celui-là, il devait avoir des contraintes, notamment un encadrement du nombre, puisqu'il avait accès à des choses particulières, comme les voies de bus ou des stationnements particuliers. Donc, tout ça était possible. Et tout ça, c'est pour dire que, surtout, c'est absurde de vouloir mettre en cause ceux qui publient des études. Ces études, elles sont indispensables pour faire progresser le débat public. Elles servent au débat public. Elles viennent là. Elles sont totalement critiquables, évidemment, et on peut argumenter qu'elles ont des angles morts, qu'elles ont un point, un angle, et que évidemment ce n'est qu'une partie du sujet. Ça, c'est tout à fait légitime. C'est, à mon sens, très dommage de vouloir attaquer au nom du commanditaire. Il faut attaquer le fond de ce qui est fait. Et dès lors que c'est transparent, et alors moi je me souviens parce qu'à l'époque, on va dire que la mode était un peu plus en faveur d'Uber et un peu moins en faveur de G7.
Oui,
les mouches ont un peu changé d'âne, comme on dit, depuis. Mais à l'époque, c'était vraiment ça. Et moi, à chaque fois que j'étais cité, que nos études étaient citées dans la presse, on en mettait une grande couche sur G7 et son horrible monopole des taxis parisiens sclérosés et vieillissants. Donc tout ça est très normal, et je pense que dès lors que tout est transparent, ce qui est évidemment indispensable, eh bien au contraire, ça sert. Et après, il faut aussi qu'il y ait des études totalement indépendantes, ça, c'est bien entendu, ce n'est pas contradictoire.
D'accord.
Et ce n'est pas exclusif.
C'est bien de mettre les pendules à l'heure. Vous voulez réagir là-dessus,
je vais dire un petit mot. Non, le problème dans le débat, c'est la confusion qu'il peut y avoir quand même entre le travail académique et le travail qui peut être financé par une compagnie. C'était quand même pas rien, Uber, à ce moment-là, qui arrive. Je pense que ce qui manque là-dessus, c'est qu'il n'y a pas pu avoir de contre-analyse ou de contre-expertise, c'est-à-dire éventuellement savoir effectivement l'entrée de Uber. Bon, les travaux, j'ai regardé ce que vous aviez fait, c'est de savoir si est-ce qu'on arrivait tous aux mêmes conclusions, en fait. Et donc Uber, effectivement, a aussi des résultats qui sont quand même plutôt en leur faveur dans cette étude, c'est savoir est-ce qu'il y a un consensus sur ces résultats. Dans la recherche et notamment dans le débat public, il faut aussi qu'il y ait une contre-analyse. Et là, le petit problème quand même qu'il y a là-dessus, c'est qu'il n'y a pas eu tellement de contre-analyse, qu'il n'y avait pas les données.
Exactement. En fait. Mais légalement, la seule manière en fait, de faire une étude à l'époque, Uber n'allait pas mettre ses données dans le domaine public.
Oui, et donc, mais du coup, on est obligé de vous croire sur parole.
En tout cas, c'est plutôt qu'il y a toujours le caveat que vient de mentionner Jean-Charles, qui est que c'est une étude qui n'était pas présentée comme une étude académique indépendante faite dans le cadre...
Juste, j'ai l'impression quand même que ça a été pas mal relayé, comme des travaux qui étaient scientifiques, dirais-je.
Ça, c'est aux journalistes de faire le travail.
Voilà, alors après, c'est aussi
les journalistes. Les journalistes ont soulevé directement la question dans les
confusion, est-ce que c'est une étude d'Hubert ou est-ce que c'est une étude académique, quoi.
On n'a jamais entretenu la confusion là-dessus.
Il n'y a pas une confusion. Après, c'est effectivement aux journalistes de faire leur job et de ne pas s'engouffrer trop vite avec.
C'est ça. Enfin, voilà, il y a aussi.
On avance.
On a un dernier mot sur les statistiques. Ce qu'on a toujours plaidé, nous, à l'époque, et d'ailleurs, ce n'est pas encore complètement réalisé en France, malheureusement, on a toujours plaidé pour l'ouverture complète des données matière des courses, ce qui existe par exemple à New York, qui existe à Londres, qui sont les grandes métropoles comparables à Paris en matière de volume d'activité, de problématiques. Et effectivement, c'était un problème français. Et on plaidait pour ça en disant il faut effectivement faire en sorte que tous les acteurs aient à transmettre des data publiques anonymisées, évidemment, sur les courses, mais des data publiques, des sets de data sur les volumes de courses, les prix, les durées, etc., etc., les occupations des véhicules et ce genre de choses. Et donc ça, évidemment, ça serait très bien qui est ça, mais ce n'était pas du tout le problème ni des deux acteurs concernés, ni des études qui étaient faites en leur nom de pouvoir repallier ça. On ne pouvait pas le faire.
C'était aussi embryonnaire à l'époque, hein, ce secteur, donc toutes les données n'étaient pas forcément très mûres. Ouais. Un euro, un dollar, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, Mathieu Plane ? C'est symbolique, mais quand même, c'est la première fois qu'on retrouve ce niveau-là depuis l'année 2000. Hein.
On va dire que c'est plutôt les conséquences de mauvaises nouvelles.
Ouais,
en
ça,
tout cas, ce qui est évident, c'est vrai que des fois, la dépréciation d'une monnaie par rapport aux autres, ça peut redonner des gains de compétitivité, être source de croissance à moyen terme, hein, notamment pour le secteur exportateur. Là, le problème, c'est que c'est vraiment très clairement la conséquence d'une zone euro qui est affaiblie pour plein de raisons. Premièrement, son exposition à la crise énergétique et la guerre en Ukraine, hein, ce qui n'est pas le cas forcément des autres zones du monde. La dépendance aux hydrocarbures russes, et on voit bien, je pense qu'on en parlera, mais de la problématique avec éventuellement le problème de l'approvisionnement en gaz, qui n'est plus du tout une problématique d'embargo. Hein, c'est dans l'autre sens que ça joue. C'est la peur, effectivement, qu'on n'ait plus d'approvisionnement. Le deuxième point, c'est que du coup, le risque récessif est beaucoup plus important en zone euro qu'ailleurs, hein, étant donné le choc énergie qu'on subit, étant donné qu'on n'est pas producteur de ces hydrocarbures. Et puis, troisième point, il y a aussi le risque de fragmentation de la zone euro. C'est-à-dire qu'on voit bien, la politique monétaire est face à des difficultés, c'est lutter contre l'inflation et éviter aussi que les spreads de taux s'écartent trop. Et donc, il faut un outil anti-fragmentation qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui.
J'ai hâte de le connaître.
Et donc, c'est vrai qu'on le revoit là tout de suite. Le risque, c'est très clairement l'Italie, avec les risques d'effet boule de neige sur la dette. Hein, c'est-à-dire qu'avec des taux d'intérêt qui seraient supérieurs à la croissance. Et donc, il y a toujours ce risque de dire, en fait, à chaque crise, la zone euro est une zone qui est exposée à des crises, y compris internes, en raison de son fonctionnement. Et puis, dernier point, les taux d'intérêt aussi sont remontés déjà aux États-Unis, alors que c'est pas, ils viennent juste de recommencer en zone euro.
Mais un taux qui remonte, c'est que le dollar rapporte.
Voilà, le rendement, du coup, vous mettez sur la croissance ou le taux, plus l'incertitude, il est clair que la zone euro ne fait pas figure de favori en termes d'attractivité là-dessus sur les capitaux. Et donc, ça reflète plutôt cette incertitude. Et donc là, la question, c'est plutôt jusqu'où ça peut aller, quoi.
Sur le fait qu'on est très exposé à la guerre en Ukraine, et notamment au prix de l'énergie, c'est Philippe Martin dans les Échos du CE qui dit ce matin les sanctions contre la Russie sont un échec. On a tout simplement augmenté de 30% les recettes russes.
Il a raison, c'est-à-dire qu'il aurait fallu éventuellement préparer en off un embargo et le jour où on est prêt, on le déclenche. L'annoncer, mais pas être capable de le faire. En fait, à part faire monter les prix de l'énergie et continuer à acheter de l'hydrocarbure russe, en fait, vous améliorez surtout les excédents russes.
Ça fait un peu loser, hein, ce que vous lui racontez.
Terrible. Par contre, c'est vrai que. Je respecte beaucoup ce que dit Philippe Martin et les études, mais par exemple, le CAE a dit qu'à un moment, les embargos sur les hydrocarbures russes n'auraient pas des effets, des conséquences
c'est vrai,
non plus,
c'est vrai.
Qui seraient énormes.
On est tous un peu tombés de notre chaise quand on a vu l'étude, faut être honnête.
Et donc, c'est vrai que le message qui a été annoncé aussi, c'était de dire que finalement, c'était pas non plus. Que c'était des conséquences, mais que c'était faisable. Or, aujourd'hui, on voit que c'est pas si faisable que ça.
Augustin Landier, je reviens sur un point qui me semble essentiel sur la fragmentation de la zone euro. Mm. Une zone qui a une balance des paiements courants excédentaire, donc l'ensemble des biens, mais également des services que nous vendons à travers le monde, est une zone normalement où la monnaie s'apprécie. Une zone qui est très déficitaire, ce qui est le cas de l'Amérique, est normalement une zone où la monnaie se déprécie. C'est exactement l'inverse à quoi on assiste. Est-ce que là, on n'a pas un nouveau marqueur des imperfections congénitales de l'euro avec le t-shirt à taille unique pour 19 gabarits ?
En tout cas, la logique économique de ce qui se passe, elle est vraiment claire. Elle a été bien rappelée. C'est le différentiel de taux est gros. L'exposition de la zone euro à la crise énergétique, elle est beaucoup plus élevée que celle des États-Unis. Il n'y a aucun doute là-dessus. L'hiver 2023, on ne voit pas encore ce que ça va être. On ne peut même pas le décrire comme un scénario. Il faut plusieurs scénarios maintenant pour décrire l'année qui vient. Donc, il y a une prime de risque élevée sur l'euro. Le fait que ce soit une économie de guerre, ça ajoute des asymétries d'information. C'est-à-dire qu'imaginez, vous investissez dans la zone euro, il faut vraiment suivre au jour le jour ce qui se passe. Quand il y a de la guerre, il y a des asymétries d'information qui n'existent pas dans une économie qui fonctionne en régime normal. Donc il faut une vigilance, il faut des canaux d'information. Donc c'est normal que pas mal d'investisseurs en fait se disent, on se retire de cette zone, en tout cas tant qu'elle reste aussi incertaine. Donc la logique économique, elle n'est pas surprenante. Après, un équilibre va se trouver parce que comme on importe de l'inflation via cette dépréciation de l'euro, on importe de l'inflation et du coup la BCE va devoir agir, les taux vont devoir s'ajuster.
La question, c'est jusqu'où on va. On était tombé au plus bas à 82 cents de dollars. Pour un euro, 82 cents, c'était en octobre 2000. C'est le moment où l'Allemagne n'est pas bien, où la réunification s'annonçait très coûteuse. Jean-Charles Simon.
Oui, c'est pas non plus une période si mauvaise que ça pour l'économie européenne, d'ailleurs, mais à l'époque. Mais au global, en tout cas, l'économie française se portait très bien. La question, pour moi, c'est ça a été évidemment cité par Mathieu et Augustin, mais c'est vraiment, je pense que une bonne partie de la baisse, elle est justement cette différentielle de politique monétaire et d'anticipation de politique monétaire. C'est-à-dire que, justement, les marchés d'échange, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient une Fed qui est très déterminée, qui est assez agressive, mais un peu plus agressive que prévu dans ses remontées de taux.
La Fed qui dit implicitement, j'irai jusqu'à la récession si c'est nécessaire.
Voilà, exactement. Voilà. Avec donc les conséquences que ça a pour l'économie américaine qui peuvent être assez lourdes. Et en revanche, une BCE qui est au contraire très prudente jusqu'à maintenant, on va voir ce qui va être fait, mais qui jusqu'à maintenant était très prudente et qui est quand même plutôt vue comme essayant de ménager justement les taux souverains et donc de
avec surtout
la courroie de transmission entre ces taux et les taux souverains, et donc on a le sentiment que forcément on n'a pas du tout les mêmes visions du sujet. Donc ça joue, je pense, dans les 10 centimes perdus par l'euro, ça joue une part quand même très importante. Et tant qu'on aura ce sentiment d'écart, je pense que la Fed à un moment va justement se retourner, puisque maintenant on commence à avoir des anticipations de rebaisse des taux potentiellement de la Fed en 2023. Donc on va voir comment les choses vont se cristalliser. Mais pour l'instant, on a vraiment ça. Et donc évidemment, vous regardez les taux américains, les taux européens, on est, je crois que l'Italie doit être en dessous des États-Unis. Bon, pour donner à peu près un ordre de grandeur, pour voir à quel point les taux américains sont montés fort. Et ça a des impacts très lourds aux États-Unis, en plus, comme vous le savez, sur le marché immobilier qui est encore plus sensible que les marchés européens au mouvement global des courbes de taux. Donc je crois qu'il y a ces deux politiques-là, et quand l'une et l'autre va devoir un peu modifier un peu sa trajectoire de ces premiers mois. Elle a fait un peu s'adoucir parce que ça commence à trop ralentir aux États-Unis et créer des tensions politiques fortes. Et la BCE, au contraire, de se dire, là maintenant, quand même, avec toute cette inflation importée, il faut que je réagisse et que je fasse un peu remonter la devise. Ça devrait, a priori, se stabiliser. Donc, je sais pas si pour l'instant, dans les futurs de change, justement, ça se voit déjà. Mais en tout cas, il y aura à un moment un équilibre et je suis pas sûr qu'il y ait de raison qu'on aille à 82 centimes, à 82 cents, comme en 2001.
Mon confrère Jean-Pierre Robin dans le Figaro se désespère du silence de Christine Lagarde sur l'euro. Vous dit-il, à un moment, on aurait besoin d'un euro fort, justement, pour lutter contre l'inflation.
Est-ce qu'on a besoin d'un euro fort ?
À force de jamais décider entre boire ou manger, on finit par mourir de soif.
Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup besoin d'un euro fort.
Si on veut juguler l'inflation.
La BCE n'a pas un objectif de change.
Non, je sais.
Donc elle n'a pas à déclarer son objectif.
Tous les trucs qui ne sont pas dans son mandat et qu'elle fait quand même depuis des années.
Oui, mais elle ne va pas dire. Je voudrais que l'euro soit un euro.
Oui.
Peut-être implicitement, elle va peut-être mettre des outils pour y arriver. Mais une fois de plus, c'est quand même difficilement conciliable cette remontée des taux avec le risque que ça présente aussi sur les dettes. Parce que la remontée des taux, effectivement, c'est un élément important. C'est vrai que c'est assez embêtant dans la séquence où on a une hausse des prix de l'énergie qui sont effectivement payés essentiellement en dollars. Et donc, ça remet une deuxième couche sur la boucle inflationniste et le risque d'inflation. Donc c'est pas une bonne nouvelle. Alors c'est vrai que c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'agroalimentaire, l'aéronautique, pour le luxe, etc. Par contre, pour tous ceux qui sont pas des secteurs exportateurs et pour le pouvoir d'achat, parce que ça crée un choc d'inflation, hein, ça renchérit le choc d'inflation.
Totalement.
Très clairement, effectivement, le donner un objectif de change me semble assez compliqué.
En théorie, elle ne peut pas, je sais. Mais enfin,
elle a déjà un mandat compliqué.
C'est pas mauvais pour le tourisme aussi. Et d'ailleurs,
ah ouais, c'est bon pour le tourisme.
Il y a des Américains partout dans Paris aujourd'hui.
C'est bon pour le tourisme. C'est pas bon pour le Français qui va faire
ses courses.
Qui va passer ses vacances aux États-Unis ou qui fait le plein de la voiture. Oui, c'est vrai que 1 dollar sur le brut en plus, c'est 1 centime à la pompe. Et que les 25 produits les plus consommés en France sont tous des produits importés. Donc là, c'est vraiment là. Et par contre, c'était Louis Gallois chez Airbus qui disait chaque fois que l'euro perd 10 centimes, moi je prends un milliard.
Ouais.
Voilà. Le texte de Jean-Pierre Robin, je trouve, je l'aime beaucoup, mais ça ne rendait pas compte du dilemme face auquel la BCE est. Donc il n'y a pas un bouton sur lequel elle doit appuyer.
Je suis d'accord.
La seule manière, c'est de remonter les taux trop vite. Ça va poser la question des dettes souveraines trop tôt. Elle ne souhaite pas le faire tout de suite. Et il y a une doctrine à trouver qui n'est pas encore trouvée. Donc il y a un tâtonnement, effectivement, à la BCE, mais je ne crois pas que ça soit une sorte d'erreur de manœuvre de la part de la BCE, c'est que le tâtonnement, effectivement...
Vous savez, quelquefois, quelques mots bien sentis, sans dire la BCE prend l'engagement d'eux, parce que c'est pas dans ma mission, ça suffit quelquefois.
Et en plus, on est quand même dans... Je crois il y a beaucoup le consensus, c'est peut-être excessif, mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui estiment qu'on est quand même dans une inflation qui reste massivement une inflation d'offres, de pénurie, de circulation.
C'est clair pour l'instant. Hein,
oui. Et donc, l'outil de la remontée des taux n'est pas nécessairement un outil très pertinent. Enfin, en tout cas, la remontée brutale des taux n'est pas nécessairement un outil très pertinent aujourd'hui.
Bon. Sachant qu'effectivement, aux États-Unis, le sous-jacent, c'est-à-dire l'inflation qui n'est pas que l'inflation importée, c'est-à-dire l'inflation qui est liée aux produits domestiques et donc à l'activité domestique, est bien plus élevée qu'en Europe.
Hein. D'ailleurs, elle est à 5 et quelques, l'inflation core aux États-Unis.
Exactement.
Et c'est quand même un niveau, je crois, quasi record pour l'inflation core. Hein.
Alors que ce qui n'est pas du tout le cas encore.
Et les salaires également, ça se voit sur les salaires.
On marque une pause. L'inflation core, c'est quand vous retirez tout ce qui est volatile, notamment les prix de l'énergie et les prix alimentaires. C'est ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente et qui est plus révélatrice de la réelle inflation. On marque une pause. Dans un instant, je vous demanderai de réagir à cette décision de l'Espagne qui, après, je crois, l'Italie aussi, mais la Grande-Bretagne, décide de surtaxer, comme on dit, enfin, de taxer de manière exceptionnelle les surprofits de ces gougoubes entreprises qui, objectivement, profitent de l'inflation sans avoir beaucoup de mérite. Pour ça. Est-ce qu'il faut faire pareil chez nous ? À tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Augustin Landier, professeur à HEC, co-auteur du prix de nos valeurs, quand nos idéaux se heurtent à nos désirs matériels chez Flammarion, qui a reçu le prix du livre économique de l'année de la librairie de l'Écho d'Emmanuel Lechypre, en partenariat avec Montpensier Finance. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE, et Jean-Charles Simon, président de Station, société d'études économiques, et président d'ETF Patrimoine, société d'allocation d'actifs. Bon, ça y est, maintenant, c'est les Espagnols qui décident de taxer de manière exceptionnelle ceux qui s'enrichissent en ce moment. Alors, on va éviter les formules provocatrices de profiteurs de crise ou profiteurs de guerre. Non, l'inflation profite à un groupe comme Total, parce que le pétrole est cher, à un groupe comme CMA-CGM, parce que le transport maritime est cher. Mathieu Plane, vous avez un avis là-dessus ? Est-ce qu'il faut dire, tout le monde doit payer, donc on pourra parler de la manière dont certains vont payer, certains ménages vont payer, mais aussi les entreprises, et c'est normal.
Bon, que le débat ait lieu, ça me semble pas totalement absurde, effectivement.
Et franchement, je suis de votre avis
que le débat ait lieu. Mais je ne suis pas convaincu, en fait, en réalité, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, en réalité, on est face à des multinationales qui génèrent des profits qui sont effectivement énormes, mais qui sont aussi réalisés beaucoup dans le monde.
Mais c'est ça. Et Total Energy était dans le rouge en 2021 en France.
Voilà. Et je sais que le chiffre d'affaires total, c'est 25% en France à peu près, mais effectivement, les profits, c'est moins. CMA-CGM. Alors, CMA-CGM, c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir beaucoup d'excédents dans notre balance courante, d'excédents service, grâce au fret maritime. C'est tellement énorme que du coup, ça permet de compenser en partie les déficits commerciaux industriels. Mais ce qui est intéressant, c'est CMA-CGM, ils sont dans 160 pays. Donc, c'est quelle est la base, en fait, taxable, en réalité, si vous mettez une surtaxe d'IS? D'abord, est-ce que vous ciblez uniquement certaines entreprises ou est-ce que vous mettez, c'est assez possible, une surtaxe d'IS en fonction du chiffre d'affaires ou des choses comme ça?
Mais en fonction du chiffre d'affaires, on ne peut pas cibler trois boîtes comme ça en disant...
Non, je pense que c'est compliqué. Je pense que le rendement... La question, c'est qu'en plus, le rendement fiscal... Une fois dessus, il faut peut-être avoir le débat, mais je ne sais pas combien ça rapporterait en plus.
Ben voilà.
Parce qu'il ne faut pas prendre la base fiscale des 15 ou 20 milliards, parce qu'il faut regarder les profits qui seront localisés premièrement en France. Et puis, voilà, donc c'est quand même un sujet. Et puis, l'autre question, c'est que
aujourd'hui, ça va pas forcément améliorer le pouvoir d'achat des Français. Parce qu'il y a un peu cette idée, on va surtaxer, puis ça fera plus de pouvoir. Aujourd'hui, ça pose la question, c'est plutôt du financement de la dette. C'est-à-dire, est-ce que du coup, on va demander à un moment aux grosses entreprises une plus grande participation à la réduction du déficit public, ce qui n'est pas la question du moment, j'allais dire. Enfin, qui peut l'être, hein. Mais en tout cas, de toute façon, ça changera pas grand-chose à la situation économique actuelle. Donc, c'est plutôt dans une trajectoire budgétaire future. Mais c'est vrai que ça va à l'encontre du discours du gouvernement de dire on va pas augmenter les impôts. Effectivement, s'ils commencent à faire ça, ça. Mais c'est vrai que d'autres pays l'ont fait et qu'à un moment donné, si on doit chercher des ressources fiscales, il va falloir mettre un peu tout sur la table. Quoi.
On voit bien que ce serait surtout politiquement un antidépresseur parce que ça donnerait l'impression que les riches payent. Mais vous l'avez rappelé, enfin il y a des il y a des contraintes juridiques notamment qui font qu'il faut pas rêver. Ce sera, vous avez vu là sur le désendettement, Gabriel Attal il a considéré qu'il avait 55 milliards de cagnotte comme ça. Oui. Normalement on aurait pu penser que ça allait au désendettement. Mais on sait pas.
Alors ce qu'on ça a fait qu'on a quand même moins de déficit.
On désendette jamais quoi, c'est ça la vérité.
Ah non mais enfin on sort quand même d'une crise un peu.
Oui d'accord.
Mais... Non mais déjà on s'en sort pas mal de pas être à plus de 6,5 de déficit public.
Oui d'accord.
Au regard des recettes publiques, mais d'ailleurs c'est un peu étonnant quand vous regardez, c'est un peu technique, mais le taux de prélèvement obligatoire a augmenté depuis le début de la crise de à peu près 0,5 ou 0,6 points de PIB. Ce qui veut dire qu'en fait il y a des rentrées fiscales qui sont quand même importantes.
Alors par rapport à la taxation ou pas, allez-y Augustin. Et puis
ouais, je pense qu'il faut serrer les problèmes. Donc il y a le problème faisabilité, légal, combien ça rapporte, est-ce que ça vaut le coup. Donc ça c'est un premier aspect. Et puis alors, l'autre aspect c'est d'un point de vue un peu de théorie économique, est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Et donc là je pense qu'il faut la théorie elle dit si on taxe les entreprises avec des taxes spéciales quand elles font des profits, ça décourage l'investissement parce qu'elles se disent que en fait elles vont pas toucher les profits qu'elles anticipent au moment où elles investissent. Alors après, la théorie, elle dit aussi, dans les états vraiment exceptionnels, vous pouvez faire des choses exceptionnelles sans casser votre réputation sur le fait qu'en temps normal, vous vous comportez de manière normale. Alors, pour la France, le fait que d'autres pays le fassent, disons, ça ouvre une possibilité de le faire sans trop entacher la réputation de la France. Mais bon, il y a quand même un arbitrage, disons, il n'y a pas de solution évidente. Ce qui est certain, c'est qu'il faut regarder autour de nous ce qui se fait et surtout pas faire des choses qui se détacheraient complètement du consensus européen sur ce qui est légitime de faire.
Il y a Maxence me dit, c'est quoi une entreprise qui profite de l'inflation? Ben vous l'écrivez, Maxence, une entreprise qui profite de la hausse d'un prix dont elle n'est pas responsable et
une forme de rente.
Voilà, une forme de rente qui voit ses résultats progresser sans avoir fait des choix stratégiques particuliers. Alors vous écrivez, elle est exposée au risque de baisse du même cours. Oui, c'est absolument vrai. Elle est exposée au risque de... Jean-Charles Simon.
Bon, surtout ce qui je pense qu'on peut considérer qu'en effet il y a des moments de surprofit. Ça, je crois que c'est il y a pas de problème pour reconnaître
ça. Le premier trimestre de cette entreprise, c'est extraordinaire.
Mais le problème, si vous voulez, c'est qu'il faut d'abord distinguer où. Enfin, je pense que les gens confondent souvent ce qu'ils entendent par exemple comme le résultat comptable d'une entreprise comme Total, qui est mondiale, et qui a un résultat, qui est même pas le résultat fiscal, et le résultat fiscal qui est localisé en France est celui qui est localisé partout. Ces groupes peuvent d'ailleurs réagir si jamais elles ont le sentiment que, par exemple, c'est le moment de pas remonter de dividendes ou d'intra-groupes ou des choses comme ça, si c'est pénalisé fiscalement, et donc que ça rapporte finalement très peu. La deuxième chose, c'est que si au contraire elles n'ont pas vraiment de solution et pour éviter une surtaxe particulière parce que, en fait, le profit se trouve en France, il faut absolument qu'elle le remonte en France. Le risque, c'est que vous ne taxiez en fait que votre groupe national. C'est-à-dire que les concurrents internationaux, eux, qui en France n'ont que des unités en général qui sont à faible profit, je pense aux pétroliers, hein, on sait que les activités par exemple, de distribution sont souvent des activités qui ne rapportent pas d'argent. En la matière, ces gens-là, ils ne vont absolument pas subir la taxe française. Donc vous allez plutôt désavantager votre acteur national et sa capacité, grâce à ses surprofits, à réinvestir et à faire des choses après, en regard des autres sociétés. Donc là aussi, il y a un sujet de coordination. Que l'Espagne le fasse, c'est une chose, mais si c'est le seul pays...
Pas la tuyauterie de l'Espagne.
Et en plus, surtout, ça veut dire qu'il y a plein de pays qui ne le font pas et qui, du coup, vont quelque part avantager leurs champions nationaux par rapport aux nôtres. Donc, c'est des choses à prendre avec des pincettes. Là aussi, encore une fois, je trouve que ce n'est pas du tout anormal d'y penser. On peut faire des choses. Je vois que, par exemple, sur les banques, il y a quelque chose qui est fait en Espagne. On peut trouver des choses comme ça, été fait au moment de la crise financière, pendant la décennie qui a suivi, les banques ont payé une sorte d'écho. Et là, pour le coup, elles ont une bonne partie de leur profit national. Bon, voilà, on peut trouver des moments où on va dire, là, je ne dis pas du tout qu'il faut faire payer les banques là en ce moment, mais on peut trouver des moments où effectivement, il y a un consensus qui pourrait se dégager par une forme de contribution. Mais encore une fois, il faudrait vraiment, ce que disait Augustin, qu'on soit sur l'idée qu'on est sur quelque chose d'exceptionnel, si possible de concerter, à mon avis, en zone euro, pour au moins pas avoir le sentiment qu'on est vraiment... les morts de faim, si je puis dire, fiscalement, à aller
chercher...
Les sados fiscalistes, les seuls de l'Union. Et à ce moment-là, on aurait un problème d'image.
Je me souviens que les meilleurs, quand même, pour faire payer les banques, ont été les Américains. Ils ont laissé le temps aux banques de se refaire la cerise, et une fois qu'elles avaient retrouvé vie, hop, on a traîné les Américaines au civil, et traîné plutôt les étrangères au pénal, c'était plus sympa.
En France, on s'en rend pas compte, mais la décennie 2010 a été une décennie de surfiscalité énorme pour le secteur bancaire.
Oui, et puis il faut rappeler que les banques n'ont rien coûté à l'État, contrairement à ça.
Alors, il y avait quand même l'idée que, effectivement, enfin, pour la question, après, elles ont effectivement remboursé, mais il y a une forme de garantie.
Ah, il y avait une garantie
de l'État.
Explicite.
Non, mais c'est pas. Elles n'ont absolument pas contribué au saut de dette publique de l'État.
Non. Le saut de dette publique, il est lié au choc économique.
Exactement. À l'arrivée, cette histoire a rapporté 2 milliards d'euros aux caisses de l'État.
Vous vous souvenez qu'il y avait eu un débat Eurostat sur justement une partie de l'activité. Est-ce que c'était l'activité qui devait être intégrée à la dette publique ou pas? Ça n'avait pas été intégré. Je sais plus, c'était la SFEF, non?
FSF, je crois.
Enfin, il y avait une structure. Et en fait, ça avait été sorti. Du calcul à la dette publique, et comme tout a été remboursé et que l'État a même plutôt fait payer des intérêts assez
élevés. Non, mais ça, quand même, cet argument-là.
Quel argument
Il faut bien distinguer ex ante et ex post. Dans la vie, il y a plein de choses où vous prenez un risque, les choses se passent bien, vous gagnez de l'argent. Il se trouve que ça a été le cas. On s'est plutôt bien sorti finalement de la crise financière. C'était pas écrit d'avance. Donc c'est normal que l'État soit rétribué, qu'il y ait une prime de risque.
Bien sûr. Mais l'État, même Nicolas Sarkozy, avait mis 350 milliards de garanties. Oui, mais ça fait 10 ans qu'on entend tout le temps, et je les vois dans les réactions. Ah ouais, mais les banques nous ont coûté cher. Non, les banques ne nous ont pas coûté.
Ex-ante,
elle fermait.
On va regarder. Il y en a certaines, y compris des grandes françaises, qui ont senti le vent du boulet.
Oui, mais il y en a aussi à ce moment-là à qui on a tordu le bras. Moi, j'étais proche de ces mesures-là. On a tordu le bras parce que le gouvernement de l'époque voulait que le plan soit global et apporte une forme de sécurité globale aux épargnants. Et des groupes qui ne voulaient pas ni de l'aide en capitaux propres, ni de la garantie, qui disait « moi je n'en ai pas besoin et je ne veux pas payer le coût que ça va représenter ». Et parce qu'il y a une proximité quand même assez forte entre les dirigeants du secteur bancaire et les pouvoirs publics français, elles ont accepté pour faire qu'il y ait une image de place collective qui aille avec ça. Mais certaines ne voulaient pas, et il y a d'autres qui étaient en difficulté plus importante, mais certaines ne voulaient pas, et on leur a tordu le bras pour le faire.
C'est la dernière trouvaille probablement en termes de réflexion autour de l'action publique pour préserver le pouvoir d'achat, quand Elisabeth Borne laisse entendre, c'est pas du tout fait, mais laisse entendre qu'on pourrait avoir des prix à géométrie variable en fonction des revenus. Ce qui a amené chez moi cette réflexion un peu tordue, mettons carrément nos ressources enregistrées sur la carte bancaire et tout ce qu'on paye est différencié en fonction des revenus que nous percevons. On pourrait l'imaginer, je suis sûr que techniquement c'est possible. Mathieu, faire payer en fonction des revenus. Toi, tu es dans tel décile, tu paieras ton kilowattheure.
Certaines choses, effectivement, la cantine, des choses.
Oui. Là, c'est gratuité ou pas, mais faut sous condition de ressources. Non,
enfin, c'est pas que gratuité. Hein.
Oui, c'est vrai. Il y a une échelle.
C'est vrai aussi. C'est vrai pour la crèche. Il y a un certain nombre de services publics comme ça qui sont déjà à fonction de le prix est déjà à fonction des revenus. Non, je pense que ça devient très très complexe d'abord à mettre en place. Je suis pas sûr que constitutionnellement ça peut poser aussi, à mon avis, quelques questions. Du coup, ça risque de se finir par un dispositif d'aide, en fait, plus qu'autre chose. Après, le seul effet que ça pourrait avoir, mais on voit bien, enfin, il y a plein de problèmes, c'est parce que est-ce qu'on met juste une condition de revenu ou est-ce qu'on met aussi une condition de localisation? Parce qu'on voit que c'est par rapport à l'énergie. Est-ce qu'on met localisation, mais plus est-ce que je travaille et donc je dois prendre ma voiture ou est-ce que j'ai possibilité d'avoir accès à des transports en commun? Est-ce que cette énergie est substituable ou pas? On voit, en fait, voilà, il y a une histoire de choix. Est-ce que, par exemple, on prend en compte la taille du logement? Est-ce que le prix du logement, enfin, mais, voilà. Donc,
est-ce que j'ai des doubles vitrages? Enfin, il y a un moment.
Ce que je veux dire, vous voyez, sur les dispositifs d'aide, et en plus, vous avez des seuils dans tous les sens. Ça va être assez affreux, hein, cette histoire, hein, parce que, effectivement.
C'est affreux.
Non, mais parce qu'on va arriver dans une logique de ciblage qui est à peu près aussi. Qu'on peut comprendre pour des questions budgétaires.
Souhaitable, d'ailleurs.
Et des questions, effectivement, de qui peut absorber le choc ou pas. On peut pas avoir une voilure budgétaire aussi large, plus les incitations que ça peut envoyer. Mais à partir du moment où vous faites du ciblage, et quand vous le voulez un peu intelligent ou complexe, ça devient assez vite une usine à gaz, et surtout, vous avez des effets de seuil un peu dans tous les sens.
Imagine, tu déclares tes doubles vitrages. Là,
non, mais alors j'exagère, double vitrage, mais par
présence
exemple.
Présence de tramway.
Imaginons que le revenu, le seuil, ce soit 1500 euros pour avoir un prix spécial. Celui d'abord, alors il faut prendre la structure du ménage, hein, oui. C'est pas juste individuel.
En plus.
Après, est-ce que celui qui a donc 1550 euros, mais qui vit dans un petit appartement, il aura le prix fort, alors que celui qui est à 1450 mais qui a une maison, lui, il va avoir un bénéfice important sur sa facture énergétique. Donc, vous voyez, ça met en tout de suite, ça soulève plein de questions et qui vont créer, en fait, un nouveau, si les prix d'énergie baissent pas d'ici là, hein, un nouveau choc inflationniste pour les ménages qui sortiront des boucliers. Hein. Et donc, on aura risque, en fait, les deux points d'inflation qu'on avait, pardon, en moins par rapport à la zone euro, on va avoir une forme de rattrapage par rapport à la zone euro, hein, dans ce contexte-là. Mais il y a quand même la question du coût budgétaire de ces mesures-là, hein, qui sont très élevées. Quoi.
Auguste Alandier.
Bah, d'abord, on n'a pas le choix. On ne peut pas garder les boucliers éternellement, donc on ne peut pas protéger tout le monde. Donc, déjà, on n'a pas le choix. On voit bien qu'il faut à la fois.
Ce matin avec Jean-Charles, on ne peut pas avoir un nouveau ministère du pouvoir d'achat.
Il faut trouver un mécanisme qui protège les plus vulnérables, qui pas trop de gens qui sont des cas particuliers qui, du coup, ne sont pas bien représentés dans le filet de sécurité qui sera fourni. Donc, il n'y a pas de solution parfaite. Moi, je pense que le chèque énergie est plus simple à mettre en œuvre. Oui, après, il y a une distorsion qui est que tout le monde... c'est pas facile de le rendre contingent. À quoi on le rend contingent? Le débat aussi existe toujours. Est-ce qu'on le donne à tout le monde, pour le coup? Ou est-ce qu'on arrive à rendre ça contingent à la dépendance? Est-ce que vous dépendez de votre véhicule pour aller au travail, etc.? Mais en tout cas, il n'y a pas le choix. On voit bien que là, maintenant, il faut des politiques.
Mais on voit que l'indemnité inflation a été un petit souci, quand même. C'est-à-dire que des ménages qui n'avaient pas de voiture l'avaient, alors que d'autres qui étaient juste au-dessus du seuil, et en plus, ça avait prenez pas en compte la structure familiale, faisait que vous ne recevez pas, alors que vous étiez en zone rurale, vous étiez seul avec trois enfants, vous ne l'aviez pas.
Il y a toujours des distorsions, il faut les limiter.
Par ailleurs, c'était un dispositif extrêmement large, hein, parce qu'on était sur 38 millions de ménages.
38 millions de ménages.
Donc, de personnes, pardon. Mais. Je disais ce qu'on disait avant 9h, c'est on ne peut pas être dans l'idée que l'État est là pour faire apporter une garantie de pouvoir d'achat. C'est absolument, c'est aberrant, et l'État n'a pas les moyens d'une promesse comme celle-là. Et donc il faut, vraiment cibler les plus nécessiteux sur les dépenses qui sont elles-mêmes les plus exigeantes. Donc il ne s'agit pas de rendre toutes les dépenses, quand vous allez au restaurant ou autre, liées aux revenus. Je pense qu'en revanche, un tarif social sur l'énergie, comme d'ailleurs il y a déjà des mesures existantes, c'est quelque chose qui peut se comprendre potentiellement. On peut imaginer ça, mais c'est probablement plus simple en effet de le faire avec des systèmes de chèques. Ce qu'il faut, c'est vraiment, c'est ça où je pense les oppositions en ce moment se trompent et le gouvernement commence à prendre la bonne orientation après s'être lui-même, à mon sens, trompé. C'est-à-dire qu'il faut vraiment ne cibler qu'une petite fraction de ménage sur la condition de revenu. Après, évidemment que ça va créer des biais entre les gens qui ont des gros usages, des petits usages, etc. Mais
toujours,
je pense que c'est rentrer dans quelque chose dans une usine à gaz qui est quasiment infernale. Donc je pense que le mécanisme, effectivement, du chèque énergie est probablement, de ce point de vue-là, le plus pertinent. Vous avez la capacité, en fonction de votre consommation, enfin, de vos revenus et de votre consommation d'énergie, d'avoir une part qui est absorbée dans le choc. Mais pour les autres, il faut garder en plus le signal prix. Et le signal prix, a priori, c'est ce qu'on devrait avoir puissance quelque chose, peut-être pas 10, mais en tout cas devrait être de manière forte, avec une taxe carbone sur à peu près tout. Le fait de dire aujourd'hui, quand je vois des partis politiques qui parlent de maintenir le prix du litre d'essence à 1,40€ ou 1,60€, c'est quand même assez délirant. Je veux dire, ça c'est absolument pourquoi Bernard Arnault irait mettre de l'essence à 1,40€ le litre dans ses véhicules dans ses véhicules qu'il ne conduit peut-être pas lui-même, mais mais dans ces véhicules, tout ça n'a vraiment pas de sens. Donc il faut vraiment avoir cette logique, je crois, des plus nécessiteux sur les dépenses les plus essentielles.
Auguste Alandier.
Oui, juste un mot qui est un point un peu hétérodoxe. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur aussi de poser la question des politiques de rationnement. Donc en économie, il y a un arbitrage entre le signal prix versus des politiques de rationnement. On dit, vous avez un appartement à Paris, vous n'avez pas le droit de consommer plus de X de gaz pendant l'hiver 2023, qui va être la période terrible.
Les Allemands, ils y vont, hein.
Voilà, ça, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça et comprendre que pour la population, c'est plus acceptable. Ça répartit.
Oui, mais vous voyez ce qu'on dit là. Moi, j'ai eu énormément de réactions il y a deux jours après les propos d'Elisabeth Borne quand j'ai fait la chronique sur BFM TV, parce que la classe moyenne inférieure, elle considère qu'elle a rien et qu'elle paye pour les autres. Ouais. Et les messages, les élus, j'en ai lu au moins 10 en début d'émission. Le message c'était bon, ben si c'est comme ça, j'arrête de bosser.
Ouais. Mais le rationnement qui prévaut.
On m'envoie ce genre de.
L'effet difficile du rationnement, c'est que tu vas te retrouver dans des situations où les gens, par exemple, en général, les plus modestes ont aussi les passoires thermiques les pires, donc les plus gros besoins, toutes choses égales par ailleurs. C'est très complexe de trouver des bonnes mesures bien ajustées. Donc je pense qu'il faut vraiment regarder, vous êtes avec des revenus très faibles, il y a des dépenses qui sont des dépenses essentielles, on vient toucher ça, on vient compenser ça.
C'est important parce que c'est vrai que c'est assez logique de conditionner ressources, mais c'est vrai que ça pose effectivement la question du plafond de ces conditions de ressources. C'est ce que vous disiez, c'est que du coup les effets de seuil, et du coup quel ménage vont être. Et donc c'est vrai que nous parler la classe moyenne, une partie de la classe moyenne va pas en bénéficier, effectivement. Mais en même temps, ils sont pas riches. Et donc, du coup, ils vont le sentir quand même, le choc. En plus, c'est un choc très inégalitaire.
Ça crée un sentiment d'injustice. Voilà. En ce moment-là,
ça pose des questions de solidarité, etc. Là-dessus, d'acceptabilité de toutes ces mesures.
Qu'on n'arrête pas d'en rajouter.
Bien sûr. Et donc, effectivement, ces effets de seuil sont assez compliqués à gérer. Et puis, c'est un choc qui est très inégalitaire, en réalité, parce que, on avait fait une étude qui montrait que c'était au mois de mars, on avait 5% d'inflation, il y a les 10% des ménages qui finalement étaient moins exposés avaient à peu près 2% d'inflation, et les 10% des ménages les plus exposés avaient 8%. Et ça c'était déjà au mois de mars. Ce que je veux dire, vous avez une hétérogénéité, il y a à la fois un choc macroéconomique, qui est effectivement, c'est presque un choc de 50 milliards négatifs sur l'économie française, et puis un choc micro, c'est-à-dire que chacun n'est pas exposé de la même façon. Et le problème, c'est que l'énergie, c'est quand même un bien assez particulier, c'est pas très substituable à court terme. Et donc c'est surtout le pouvoir d'achat qui va être impacté, et pour certains c'est vraiment le reste à vivre qui va poser
d'ailleurs
plein de difficultés, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas des signaux prix, qu'il ne faut pas inciter à plus de sobriété, qu'il faudrait peut-être réfléchir même des rationnements par rapport à ce qui peut se passer sur le gaz.
On peut distinguer des biens essentiels que sont l'énergie pas substituable, le logement pas substituable et l'alimentaire.
L'énergie est un peu substituable mais pas beaucoup à court terme.
Mais c'est d'ailleurs, c'était votre étude, je ne sais plus laquelle, avait fait une observation qui allait un peu à l'encontre de la grande idée, l'inflation frappe les plus pauvres. Oui. Et en fait, on expliquait que cette inflation-là, qui normalement touche l'énergie, eh bien, pénalisait surtout, justement, la classe moyenne inférieure qui bosse, qui consomme du carburant, ce qui est moins fréquent chez des gens qui sont au chômage ou des gens qui n'ont pas d'emploi, qui se déplacent moins.
A priori, ceux qui ont un emploi, ils vont quand même bénéficier du fait que les revenus en moyenne, là aussi, c'est pas inégalitaire, parce que c'est là où il y a de la rareté qu'il y aura le plus d'augmentation, mais ils vont a priori avoir une augmentation des revenus.
Ouais. Mais par exemple, les prestations de retraite, elles vont augmenter de 1 plus 4, ça fait 5. C'est pas sûr que le revenu des actifs en 2022 augmente de 5%. En fait, après, quand même, dans l'étude, ce qui est intéressant, c'est pas tellement le niveau de vie qui va créer cette inflation, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est surtout l'endroit où vous habitez. Et ce qui est très clair, c'est que quand vous êtes en zone rurale ou périurbaine, le poids de cette énergie est plus important.
EDF, pourquoi renationaliser EDF ? J'ai entendu pas mal cette question, et c'est vrai qu'on se dit qu'un État à 84% du capital, qui passe à 100%, fondamentalement, dans sa capacité à faire ce qu'il veut de l'entreprise, c'est à peu près la même chose. À 84%, l'État a bien réussi à tordre le bras d'EDF pour lui faire supporter une partie du bouclier tarifaire, même si ça va conduire la dette d'EDF probablement au-delà de 60 milliards d'euros cette année. Est-ce que vous comprenez collectivement pourquoi on veut remonter à 100%. Moi, j'ai ma petite idée, mais la vôtre m'intéresse.
Moi, je pense que ça assainit considérablement le débat, parce que justement, de facto, l'entreprise était déjà nationalisée, et du coup, ça crée des débats sur la légitimité du pilotage par l'État. Donc, il y a un moment où je pense que c'est mieux de clarifier la situation, plutôt que d'avoir après, de s'exposer à des critiques légales aussi sur le pilotage par l'État de cette entreprise. Donc, ça, à mon sens, c'est une clarification d'une situation de fait.
Et puis, à 8,80 l'action, effectivement, quand c'est rentré à 32.
Je comprends pas pourquoi on fait, alors ça change pas l'actif net, mais on fait un effort de trésorerie sur des minoritaires qui apparemment sont là et sont prêts potentiellement. En plus, on pourrait imaginer qu'on fasse qu'ils prennent part à des efforts de recapitalisation, puisque visiblement c'est un peu l'avenir d'EDF de devoir chercher beaucoup de ressources nouvelles par rapport aux investissements dont il a besoin. Donc je vois, on en fait tout ce qu'on en veut. Est-ce qu'il y avait des risques juridiques de mise en cause de l'État en tant qu'actionnaire majoritaire, je ne suis pas certain, parce que finalement, il y a plein d'actionnaires majoritaires qui fonctionnent de la même façon, on va dire, qui répriment un peu les minoritaires. À ce moment-là, s'il faudrait demander, par exemple, aux actionnaires minoritaires de Vivendi, s'ils sont super contents du prix d'achat d'Havas, qui était la propriété de l'actionnaire majoritaire. Donc, on peut faire plein de trucs comme ça. Je ne suis pas sûr qu'il y avait des risques. Et pour ce qui est de l'argument qui est souvent mis en avant des taux d'emprunt de EDF, là aussi, je pense pas qu'en tout cas, là, à ce moment-là, la renationalisation ne suffit pas. Il faut aussi changer la nature juridique si on veut vraiment qu'il n'y ait plus de prime de risque sur EDF par rapport à ce que
il y a la garantie
aujourd'hui.
Implicite.
Donc aujourd'hui, il y a déjà la garantie implicite
de l'État.
Elle est déjà là. Donc je ne suis pas sûr que ça va changer parce qu'effectivement, les ratings d'EDF avaient baissé, mais je ne suis pas sûr que ça changera les taux obligataires d'EDF.
Moi, ma théorie, c'est qu'en 2025, l'arène à l'accès au nucléaire historique à prix cassé que EDF vend à perte va disparaître et que l'État veut reprendre la main sur les tarifs d'EDF pour probablement augmenter ses tarifs.
Pourquoi il ne pourrait pas le faire aujourd'hui ? Parce que les minoritaires ne seraient pas contents de ça, mais à ce moment-là, c'est... Enfin, je veux dire, il y a plein de choses.
Le problème, Jean-Charles, c'est que...
Je trouve ça formidable qu'ils existent.
Mais
parce qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter des actions EDF.
Je vais au bout de l'histoire.
Et à participer à des augmentations de capital, il faut en profiter. Quelque part, c'est une forme
L'idée, c'est que si l'État, dans deux ans, veut réécrire sa propre grammaire tarifaire de l'électricité en France à sa sauce, il faut convaincre Bruxelles pour ça. Pour convaincre Bruxelles, à ce moment-là, le ministre va à Bruxelles en disant « Vous me laissez faire ma tambouille avec les tarifs d'électricité et moi, je vous refais le projet Hercule que vous demandez. » Je ne sais pas
Mais je ne vois pas en quoi il aurait moins de risques en matière d'aide d'État. J'irais même à
limite, il y en
aurait presque plutôt plus.
Je ne sais pas, EDF, ça vous inspire, Mathieu ?
Non, après, je suis plus ou moins d'accord avec ce qui a été dit. C'est vrai que d'un côté, je trouve que ça clarifie le débat qu'il soit à 100% actionnaire. En même temps, est-ce qu'effectivement, à 84%, ça l'empêchait de faire...
Voilà, donc, on sort 6-7 milliards.
Alors après, je sais pas qui sont les actionnaires minoritaires aussi.
Ah, c'est du flottant, parce qu'en
En
fait, c'est du flottant historique de 2005, oui. Qui est une très très belle opération de réussite d'actionnariat populaire.
Ça a quand même été vendu avec tambours et trompettes à 32 litres. Et alors, c'est monté à 80 et ça vaut 8.
De mon point de vue, ce qui aurait été formidable à ce moment-là à faire, c'est en 2007... au moment où on a été au pic où EDF valait des fortunes, là l'État aurait dû céder les 35% au moins et en garder que 50. Et aurait fait une très très belle opération.
Là, il serait plus embêté aujourd'hui pour fixer les prix quand même, à 50%.
Moi, je pense qu'on ne sert pas le capitalisme actionnariat en entretenant, disons, ce genre de situation.
C'est un peu ambigu.
Comme dit Augustin, au moins, ça clarifie les choses.
En période de crise énergétique. Quoi. C'est-à-dire que là, effectivement, c'est un des éléments hyper importants pour lutter
Personne n'est piégé avec l'action EDF. Elle est cotée.
Non, mais l'État doit être exemplaire.
Et puis, il y a les investissements dans le nucléaire.
Je trouve que ça...
Et je suis convaincu de mon truc. Ils vont aller échanger le projet Hercule contre la renégociation.
Et vous allez perdre, au passage... de la transparence sur les comptes de cette entreprise.
Pourquoi ?
Parce qu'aujourd'hui, le fait d'être coté, la cote d'EDF va être une perte d'information et de connaissance du groupe.
On a bien des informations comptables sur la SNCF.
On en a moins. Ah oui. On n'a pas les mêmes rapports annuels avec l'obligation.
On sait qu'elle vit
de respecter l'ensemble de ce qui doit être publié pour une entreprise cotée.
On sait qu'elle vit en fonds propres négatifs.
Oui.
C'est d'ailleurs une particularité à peu près unique au monde.
Non, mais après, c'est vrai qu'il y a des sujets de legacy, il y a des sujets de réseau, et il y a des sujets. En l'occurrence, pour EDF, il y a le sujet du parc nucléaire. Donc évidemment, moi je suis d'accord pour l'idée qu'on fasse ces clarifications fortes, comme on a essayé de le faire avec RFF et puis ensuite à SNCF, de changer aussi le statut de l'entreprise, d'accepter les directives européennes sur la concurrence, etc. Donc tout ça peut s'envisager. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il y avait besoin d'aller sortir les 7 milliards ou 6 milliards.
On est en train de dire 10, parce que là, le marché fait un peu de surenchère.
Quel que soit son avis, en tout cas, ce qu'il fallait faire, c'était déposer l'offre et avant de le dire. De faire tout concomitamment. Parce que là, EDF a pris 20% depuis l'annonce d'Elisabeth Borne, depuis le discours de politique générale. Donc, il y a un vrai sujet de bonne communication.
On trouve le point du début, il y a un petit truc à fixer sur les
réaction de Nicode qui me dit pourquoi pas une prime essence totalement déchargée, défiscalisée pour les salariés, sachant que, compte tenu des taxes sur l'essence, l'État n'est pas perdant et cela peut-être pourrait ramener des chômeurs vers l'emploi, m'écrit Nicode. Il y a, on va pas, là on a fini, mais l'étude du CAE là, qui a essayé de sonder un petit peu les cœurs sur la taxe carbone, tout le monde dit qu'il faut une taxe carbone, mais personne ne veut payer.
Alors, ceci dit, le produit de la taxe carbone, qu'il soit réemployé, notamment exactement dans le sens de ce qu'on a évoqué juste avant.
Pigou vient.
Exactement, Pigou voilà. Donc, on vienne aider les nécessiteux, les gens qui se disent bah, « je ne vais pas bosser parce que ça me coûte trop cher ». En essence, tout ça a du sens.
Mais bien sûr,
donc,
ça a du sens.
Ça ne doit pas être en soi, effectivement, une recette fiscale positive.
Je caricature un peu cette étude. Revanche, c'est là-dessus qu'elle s'arrête.
Ça ne doit pas être non plus, ça doit être pas non plus quelque chose payé seulement par 5% des personnes.
Mais bien sûr.
Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus du tout d'effet. Si c'est juste de taxer les très riches, il n'y aura pas d'effet en termes de comportement.
Et c'est justement parce que elle n'était pas redistributive, parce qu'elle n'était pas pigouvienne, qu'on a eu les gilets jaunes, explique Stéphanie Stancheva, qui est...
Oui,
je suis pas sûr que les gilets jaunes aient fait ce raisonnement complet.
Mais à l'époque, c'était de la pure taxe.
Pure taxe au moment où il y a eu la baisse de l'ISF, qui a quand même un peu déclenché les foudres là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi cette taxe carbone n'était pas fléchée vers la transition énergétique.
C'est un an après. Moi, je pense que c'est beaucoup plus que 80 km/h. C'est un an après.
Les 80 km/h, ça n'a pas aidé.
C'est beaucoup plus que les 80 km/h et le fait qu'on augmente une taxe sur l'essence, tout simplement.
Augustin Landy, avec nous aujourd'hui, Mathieu Plane, Jean-Charles Simon, on se retrouve demain à 9h.